Radio Bonaventure, trafiquer les mondes. Rita Scali, Narrative Machine, épisode 1. Narrative Machine, épisode 1, aborde la question de la constitution d'un futur, dont les inventions présentées comme scientifiques rendent manifestes les stratèges politiques des médias, ainsi que la constitution de récits fictionnels et hypothétiques.
Narrative Machines, épisode 1, a été rédigé en 2018 en tant que conférence performée. 2018, un autre contexte où cette intuition était déjà là. Parfois, le politique et la science s'entremêlent et nous disent beaucoup de choses sur ceux qui nous gouvernent, sur la propagation de faux espoirs et comment, en tant qu'individus et collectivement, nous essayons de tenir tête à ces régimes de croyances. Cette conférence performée a été adaptée au format de la radio pour aujourd'hui et légèrement retravaillée. Aujourd'hui, non, il ne sera pas question de Covid. Non, il ne sera pas question du vaccin révolutionnaire inventé par un ministre algérien. Non, il ne sera pas question du désinfectant miraculeux de Trump. Non, il ne sera pas question de bain dans la bouse de vache qui permet le développement d'anticorps pour vaincre cette pandémie. Non, il ne sera pas question de vitamines halal pour avoir des tests PCR négatifs. Non, il ne sera pas question de recettes de boulettes de viande frites en forme de Covid. Nous sommes un peu tous dans l'œil du cyclone avec ces déclarations quotidiennes surréelles depuis quelques mois. Il faut du temps pour les digérer, essayer de les comprendre et les analyser. Non, on ne va pas encore tomber dans le piège de l'étrange productivité. Freinons un peu le rythme et regardons en arrière. Il a déjà fallu quelques mois et années pour digérer des sandwichs au sida. Il va falloir prendre le temps pour digérer les boulettes de viande et les mini-friandises en forme de Covid. Aujourd'hui, c'est donc juste un petit retour en arrière qui vous est proposé. On revient à quelques réflexions de 2018 et on voit comment le politique et la science fusionnent parfois pour nous prendre pour des gros cons. Vas-y. Lis la température. Lis la densité. Lis les ampères. Lis la température. Combien ? 19. Je propose 15. 17. 21. Gagné. Diminue le volt. Augmente le volt. Diminue le volt. El Maganin et Salata, les trois fous, un film égyptien de 1970 où le vétérinaire, le docteur Taoufiq, quitte son emploi pour mener des expériences avec une machine étrange. Il suffit de rajouter les ampères, diminuer le volt et ça fonctionne. Une fiction en noir et blanc. Une fiction assez proche de ce qui se passe en 2014 au Caire. C'est vrai, j'ai détruit le sida à l'aide de Dieu à 100%. J'ai détruit l'hépatite C aussi. Je l'avais déjà dit en 2006. Et c'est une bonne nouvelle. Il n'y aura plus aucun patient atteint de l'hépatite C si Dieu le veut. Il est possible d'atteindre cet objectif et le diagnostic rapidement avec ces instruments. Ce sont des instruments précurseurs. Le sida se désintègre. Si je peux me permettre l'expression, je prends le sida du patient et je le nourris avec. Je transforme le sida en kofta, viande hachée. Je prends la maladie et la transforme en nourriture. Et ça, c'est le top du miracle scientifique. Le 24 février 2014, la chaîne nationale égyptienne montre cette vidéo pendant le journal télévisé. Il s'agit de la conférence de presse internationale des forces armées qui annonce la découverte de machines miraculeuses. Le lieutenant général égyptien Ibrahim Abdelaté prétend avoir trouvé une solution pour guérir le sida, mais aussi d'autres virus, comme l'hépatite C, le diabète et le cancer, qui sont évidemment des virus. Cette invention s'appelle Complete Cure Device. Il y a 3 machines. Elles seront lancées et prêtes à être utilisées dans les hôpitaux publics dans les 6 mois qui viennent, donc en août 2014. La première machine s'appelle iFAST. C'est une machine électromagnétique qui détecte le sida, l'hépatite et d'autres virus sans prendre le sang du patient. iFAST ressemble à un horodateur. Cette machine est tranche sur pied en métal où normalement on met des pièces pour payer sa place de parking. La deuxième machine a le même nom que le projet en entier, Complete Cure Device. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de temps pour lui inventer un autre nom. La machine Complete Cure Device agit comme une dialyse qui purifie le sang des virus. Complete Cure Device ressemble à une machine à café. Là où normalement on attend le gobelet en plastique avec un liquide fade qu'on a payé 45 centimes, ben apparemment, c'est de là que sort le sang purifié. Le sang sans virus. La dernière machine s'appelle C-FAST. Elle détecte les patients atteints d'hépatite et de sida. Elle ressemble à une antenne. Un objet étrange, en forme de pistolet, auquel on a accroché une antenne de radio. Elle existe en gris métallisé, mais aussi en vert et en bleu. On m'a proposé 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. J'ai refusé. Je leur ai dit d'écrire « Découverte d'un scientifique arabe égyptien musulman ». Ils m'ont dit non. Prends le chèque et choisis un pays où habiter. J'ai refusé. J'ai voyagé. J'ai fui et je suis revenue dans mon pays. Les services secrets ici m'ont protégé. Ils m'ont kidnappé et m'ont protégé. Quelques semaines plus tard, donc vers avril 2014, l'État égyptien se désolidarise de l'annonce du général Abdelaté. Chose encore plus intrigante, les vidéos de la presse trouvées sur Internet suite à cette annonce n'existent plus. Il ne reste plus grand-chose. Il y a quelques articles dans la presse étrangère et principalement les satires de l'humoriste Bassem Youssef et d'autres blagues. Plusieurs montages Photoshop. La tête du général Abdelaté transpercée par une brochette de kofta, de viande hachée, à un emballage de médicaments, le Koftadol, la boîte de Panadol, qui est la marque locale de paracétamol, est reprise avec de la viande hachée. Le logo de la République arabe d'Égypte est détourné. Au lieu des 2 sabres, 2 brochettes de viande qui se croisent. Au lieu des 2 palmiers, 2 bouquets de persil comme ornementation sur les côtés. Comment analyser les images et les vidéos qui ridiculisent cette invention? Uniquement comme de l'humour noir? Uniquement comme une période politique tellement atroce où le cynisme reste l'unique arme de défense? Et comme d'habitude, toujours la même question naïve. Peut-on rire de tout? Tout le monde oublie un peu le général Abdelaté. De temps en temps, on entend quelqu'un dire qu'il veut un sandwich de viande hachée au sida. Dans un snack, en centre-ville, l'odeur des grillades, la sueur des clients, les néons en pleine gueule, la queue, comme d'habitude, la queue. Il est 3h du matin. Je suis la seule femme dans ce snack, rue Houda Sharaoui. Il fait trop chaud. Et puis cette putain d'humidité avec la pollution. Il faut s'adapter en me demandant ce que je fous là. Je me jure que je ne travaillerai plus jamais dans cette ville en été. Je me jure comme d'habitude qu'il faut surtout que j'arrête de me plaindre. J'ai pas trop le droit. J'ai 22 ans à ce moment et j'ai un poste plutôt cool. Je suis payée et j'ai fui la France où je suffoquais. Je suis hors d'Europe, je suis hors d'Afrique du Nord. Et ça fait du bien. Je ne suis plus la locale, je ne suis plus l'étrangère. Je suis l'interstice où mon identité n'est plus vraiment un fardeau. Je ne réfléchis plus en français, ni en anglais. Et je suis fière de penser au quotidien dans un arabe bordélique où je mélange les dialectes. Mais on revient à la scène. Rue Houda Sharaoui. Je déteste ce snack. Mais je viens à chaque fois juste pour le nom de la rue. Houda Sharaoui. La créatrice de l'Union féministe égyptienne. Non, je ne veux pas manger boulevard Talat Harb. Non, je ne veux pas manger boulevard Champollion. Non, je ne veux pas manger boulevard Abdelkhalq Tarouet. Je viens là, à chaque fois en espérant qu'il y ait un truc moins pourri à manger, rue Houda Sharaoui. Le mec derrière moi frotte sa queue contre ma jupe. Pas grave, j'ai l'habitude. J'ai des ongles super longs. Je ne dis rien, je lui pince simplement la bite. Je l'entends dire « aïe », je sens son corps reculer et je souris. Un autre qui arrive. « Wahed sandwich al-Eds ma'a cola zero. Un sandwich au sida avec un Diet Coke. » On sourit tous, on rigole, même un peu. Un petit rire dans le coin des lèvres, un rire qu'on contrôle, un rire dans les commissures, un rire qu'on n'a pas trop le droit de faire, mais qu'on veut faire quand même, qu'on fait quand même. Un rire partagé entre une cinquantaine de personnes à 3h du matin sous des néons de merde, rue Houda Sharaoui. Wahed sandwich al-Eds ma'a cola zero. Un sandwich au sida avec un Diet Coke. Quelques mois plus tard, novembre 2014, Maroc, Casablanca. Il est question du général Abdelhati et de son invention magique. Tout le monde en a entendu parler et ça rigole. Mais l'un d'eux demande « Est-ce que vous vous rappelez du marqueur ?» De quoi ? Le marqueur, l'appareil de cardiologie inventé par le roi du Maroc dans les années 80. Silence plat. L'enquête sur le marqueur débute. Pas grand-chose. Une épicerie orientale à Clamart, un restaurant à Nice, quelques résultats sur une autre épicerie en turc. Quelques pages plus tard, un début de trouvailles sur le site marocain de la revue historique Zamen avec ce court texte. Hassan II a inventé le marqueur le 9 avril 1985. Hassan II dépose auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, OMPIC, une demande de brevet d'invention enregistré sous le numéro 20630 au nom de Hassan II. Le défunt roi serait ainsi l'inventeur d'un dispositif pour la détection, l'étude et la surveillance de maladies cardiaques. Le marqueur est censé pister toutes les maladies cardiaques grâce à un système qui ressemble en réalité à la résonance échographique. En pratique, le marqueur n'a jamais intéressé le corps médical marocain ou étranger. À l'époque, la télévision nationale avait pourtant présenté l'appareil avec moult éloges et détails dans un reportage d'une dizaine de minutes en expliquant que « le marqueur va révolutionner la médecine cardiaque ». L'article date de 2012. Mais sinon rien. Comment faire pour trouver des informations ? Rencontrer des cardiologues qui travaillaient dans ces années au Maroc. Annuaire, page jaune, amis, connaissances, amis d'amis, amis de connaissances. Je récupère des numéros de téléphone. Tentative de prise de rendez-vous. C'est très simple. Soit ils raccrochent, disent qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ne s'en souviennent pas, que ce n'est pas intéressant, ou alors qu'il vaut mieux travailler sur une histoire plus glorieuse du Maroc, comme la Marche Verte. Je rencontre quand même des médecins particuliers du roi. C'est lui-même qui m'appelle un mardi matin en juin 2017. « Allô, vous travaillez sur le marqueur ?»« Oui. » »« Venez demain après-midi à la clinique de la capitale à Rabat à 17h. » Un vieux monsieur m'accueille. Il m'explique qu'il était l'un des médecins du roi pendant une vingtaine d'années. Beaucoup de condescendance. Il fait semblant de ne pas entendre mes questions. Il me demande mon arbre généalogique et mon CV. Il me dit que je dois travailler sur des histoires plus intéressantes de notre pays. Il essaye de m'intimider en m'expliquant à demi-mot que le marqueur n'est pas intéressant et que ça peut faire des problèmes. Il me dit que j'habite à l'étranger et qu'il y a beaucoup de projets à faire pour montrer comment le Maroc est un beau pays. Il est incapable de décrire le marqueur. Il prétend l'avoir utilisé, l'avoir vu, mais n'arrive pas à me dire à quoi elle ressemble. Il persiste, je dois travailler sur autre chose. Merci. Au revoir, au revoir. Je quitte cette clinique en me pensant suivie. Paranoïa ? Certainement. Je vais chez un autre vieux monsieur qui était journaliste, dissident dans les années 80. Le journaliste est très malade. Il me reçoit dans son salon. C'est la première réaction humaine d'une personne de cette génération face à ma recherche. Il rigole. Il dit que ça lui fait du bien que des jeunes s'intéressent aux histoires farfelues de l'ancien roi. Il se rappelle du marqueur. il avait été forcé pour un journal national d'écrire une éloge de ce mensonge. Ses quintes de toux rythment la conversation. Il n'a pas grand-chose à me dire sur le marcard. Il ne l'a pas vu non plus. Il ne se rappelle pas du reportage à la télé. Il se souvient que tout le monde rigolait et se demandait déjà comment une machine pouvait suivre le roi sur son cheval quand il nageait et quand il jouait au golf. Les gens faisaient des blagues où ils comparaient ces électrodes à des cordons ombilicaux qui étaient accrochés à un roi. Je m'en vais. Merci. Au revoir. Au revoir. Je trouve une autre archive. Un article paru dans le journal Le Matin du Sahara le 2 novembre 1988. Cet article est un entretien réalisé avec le professeur Ben Omar, qui a été pendant longtemps le président de la Ligue marocaine contre les maladies cardiovasculaires. Le titre de l'article est le suivant. Dans une interview exclusive accordée au Matin du Sahara à la veille du Congrès international de cardiologie qui s'ouvre aujourd'hui à Marrakech, le professeur Ben Omar déclare « Le marcar, appareil de vidéotélémétrie inventé par Sa Majesté le Roi, représente incontestablement la contribution la plus importante du Maroc à la cardiologie. » Voilà, un titre qui a la taille d'un paragraphe. Je vais lire une description de la machine faite par le professeur Ben Omar. Là encore, les points ne sont pas communs. Il y a tout d'abord et avant tout l'apport considérable de Sa Majesté qui, grâce à son génie créateur, a inventé et conçu le marcar. Point. C'est un appareil de vidéotélémétrie pour la surveillance des maladies cardiaques et pour la réalisation d'un certain nombre d'examens complémentaires. Point. Et d'ailleurs, ce brevet qui est au nom de Sa Majesté le Roi est déposé dans les pays européens en Amérique du Nord où il a été accepté. Point. Sa Majesté le Roi, en effet, a remarqué que les examens de routine que subissent les individus, notamment ceux que l'on appelle l'épreuve d'effort et qui se déroulent soit sur une bicyclette ergométrique, soit sur un tapis à épreuve d'effort, ne sont pas des moyens physiologiques. Point. C'est ce que j'appellerais des moyens forcés. Point. C'est-à-dire qu'ils se passent dans des conditions déterminées avec tout ce que cela comporte comme claustrophobie, comme angoisse pour celui qui subit l'examen, comme possibilité de vertige, etc. Point. Et Sa Majesté a eu l'idée géniale d'inventer un processus qui permet à l'individu de pouvoir faire des épreuves d'effort dans des conditions optimales, c'est-à-dire qu'un cavalier peut faire son épreuve d'effort sur son cheval, un nageur en faisant de la natation, un homme âgé qui ne peut pas faire l'épreuve de force, bicyclette ou tapis, peut si vous voulez faire cette épreuve d'effort en marchant, point. Et ce qui est extraordinaire, c'est que grâce à un processus de caméra, de vidéo et de télévision, non seulement l'individu fait une épreuve d'effort dans des conditions physiologiques et optimales, sans le stress supplémentaire que lui cause un examen médical forcé, mais qu'en plus il est filmé et transmis à une télévision, point. Ainsi, le médecin peut voir non seulement le faciès de son patient, la manière dont il réagit, comment il est, s'il est essoufflé, s'il n'est pas essoufflé, etc. Et cela, c'est une contribution extraordinaire. Point. Ce qu'il y a encore de plus surprenant, c'est que tout cela se passe sans que le patient soit obligé de porter sur lui des fils. Les électrodes sont des électrodes émettrices et le récepteur reçoit à distance par un système télémétrie les informations qu'il convertit en système vidéo et en système télévisé. Point. Et ceci est très important. Point. La métaphore du roi aux nombreux cordons ombilicaux ne marche pas. Apparemment, le marcar est un précurseur du Bluetooth en cardiologie dans les années 80. Cet article est uniquement illustré par le portrait du professeur Ben Omar. Aucune image du marcar. Une page entière dans un journal national sur une machine révolutionnaire illustrée par le portrait d'un professeur. Suite à l'entretien, le programme du premier congrès de cardiologie à Marrakech est communiqué. Il n'y a aucune rencontre, aucune intervention qui a pour sujet le marcar. Et puis, comment Hassan II a pu penser à cette machine? Apparemment, l'invention du marcar est étroitement liée à la présence de la scientologie au Maroc et de l'électromètre inventé par Ron Hubbard. Dans les années 60 et 70, cette machine était utilisée pour faire des tests de personnalité sur les nouvelles recrues de la scientologie. La machine est très simple. Le patient tient deux électrodes, un flux d'énergie circule entre le patient et l'électromètre, faisant déplacer l'aiguille sur l'écran. Le déplacement de l'aiguille est interprété par les scientologues et leur permet apparemment d'analyser la personnalité de la personne en face. Hubbard, fondateur de la scientologie, a même utilisé cette machine sur des tomates. Par ailleurs, dans les années 70, les scientologues étaient traqués par les États-Unis et l'Angleterre. Ils ont dû fuir. À ce moment, Hubbard décide de fonder la Sea Organization. L'un des bateaux de la Sea Org était Apollo. Ce bateau a passé plusieurs années entre les ports des îles Canaries, de Safi, Agadir et Tanger. Hubbard a même vécu pendant un moment à Tanger et voulait vendre l'électromètre aux autorités locales. L'écrivain et journaliste Russell Miller a publié en 1987 la biographie de ce personnage sous le titre « Ron Hubbard, le gourou démasqué ». Je vais vous lire un extrait de la page 284. L'OTC, nom de camouflage de la scientologie à Tanger, avait réussi à organiser des cours pour apprendre aux policiers et aux agents de renseignement marocains à détecter les individus politiquement subversifs à l'aide de l'électromètre. On est quand même dans les années 70, année de plomb au Maroc, année de répression énorme. Année que je n'ai pas vécue, mais dont j'ai beaucoup entendu parler. Et depuis que je suis enfant, ces années sont toujours liées dans ma tête aux mains sans ongles. L'une des techniques de torture de l'époque, arracher les ongles. Je me demande combien d'ongles ont été arrachés à cause de l'électromètre scientologue. Je me demande combien d'ongles ont été arrachés parce que cet électromètre a détecté la subversion politique de certains individus. Il est donc très probable que Hassan II aurait vu l'électromètre, et c'est ça qui lui aurait donné l'idée, quelques années plus tard, d'inventer sa propre machine, le marqueur. Est-ce que c'est plausible ? Certainement. Mais là encore, les sources manquent. Une autre source m'explique le nom, marqueur. C'est Maroc et cardiologie. Maroc plus cardiologie égale marqueur. C'est aussi plausible. Ainsi, nous avons deux inventions miraculeuses au Maroc et en Égypte qui ont été produites par les systèmes politiques locaux, mais qui sont complètement effacées de la mémoire collective. Les archives sont rares, les gens ne s'en souviennent pas, ou alors ne veulent pas en parler. Comment un représentant de l'État peut, à un moment donné, penser qu'il a une légitimité scientifique ? Comment ces décisions sont-elles prises ? Comment sont-elles assumées ? Pourquoi sont-elles supprimées par la suite ? Nous n'avons pas le temps aujourd'hui, mais il y a plusieurs autres machines qui nous racontent des histoires semblables. Elles ne sont pas toutes forcément inventées par des représentants politiques. Parfois, elles sont une initiative privée, comme en Jordanie, avec l'étrange CT Scanner du Nuclear Medicine Department for Cancer de Khalid Shoman. Cela fait penser aussi à la compétition Stars of Sciences, en arabe Nujum al-Uloum, qui se déroule au Qatar, financée par la Qatar Foundation et qui passe sur la chaîne NBC. Encore une fois, des machines étranges, mais la plus énigmatique est celle de la Soudanaise Wiam Mohamed, The Non-Invasive Malaria Tester. Ça ressemble à un Rubik's Cube, et ça peut nous dire si on a le malaria ou pas sans prendre notre sang. Mais le Non-Invasive Malaria Tester ne marche pas. Ne marche pas comme Complete Cure Device, ne marche pas comme le marqueur, ne marche pas comme le CT Scanner. D'inventions faites par des chefs d'État, nous nous retrouvons face à des initiatives privées proches du pouvoir politique, qui prétendent aussi avoir une légitimité scientifique. À chaque fois, ce discours patriotique met surtout en avant cette idée. Nous aussi, on peut le faire. Des financements du Sud pour des inventeurs d'autres Sud qui idéalisent et prônent une autonomie régionale. Cette rhétorique prétend rejeter un besoin de reconnaissance de l'Occident. Comme le général Abdelhatti l'a dit en 2017, « Nobel est l'inventeur de la dynamite qui a détruit le monde. Avoir un prix de Nobel, non merci. Ce qui m'importe, c'est une prière d'impatient. » La communication et la circulation de ces récits sont au service d'un progrès illusoire local. Dans des territoires où l'accès aux soins est un privilège, ce genre de propagande est synonyme d'espoir. Ces machines miraculeuses permettent une projection vers un avenir meilleur. Le sida n'existerait plus. Les cancers et les maladies cardiaques seraient diagnostiqués en amont et soignés correctement. Le malaria ferait moins de dégâts. La mortalité baisserait. Mais ces machines disparaissent, alors que leur narration teintée d'ironie demeure. Ces machines nous prouvent que le pouvoir localement ne peut pas être décolonial. Ce qui est décolonial, c'est comment le collectif gère et récupère ses narrations. Par exemple, « Je veux un sandwich au sida. » L'oignon frais détourné pour montrer qu'il est plus utile qu'un ministre de la Santé. Le Complete Cure Device repris pour faire de fausses publicités style Club Med. Le roi a plein de cordons ombilicaux qui le suivent quand il est sur son cheval. Le Rubik's Cube va nous sauver du malaria. Ces énièmes fausses déclarations n'affectent en rien la résilience sociale. L'ironie devient un outil de lutte, un outil subversif. L'autodérision et l'humour permettent de désamorcer des situations tragiques et figées. Les narrative machines utilisent cette autodérision comme parti pris. Mais la question continue de se poser. Comment travailler quand les archives ne sont pas accessibles ? Qu'est-ce que cette interdiction révèle sur ces systèmes politiques? Comment faire des formes, produire une pensée quand les seuls éléments sont des supputations, des rumeurs, des informations chuchotées, des blagues murmurées et des images photoshopées qui circulent sur WhatsApp? Peut-être que l'une des solutions est déjà de donner de la matérialité à ces histoires, faire exister ces objets. C'est le cas avec Complete Cure Device. Les machines ne sont plus que de vagues souvenirs. Il faut les refaire, les repenser comme des sculptures et les intégrer dans une installation de séminaire, de congrès médical. Puis réinjecter tout ça dans une mini-réalité. Une mini-réalité de l'art, une mini-réalité virtuelle. Créer le site internet, le laisser vivre. www.completecuredevice.com. Faire exister cette société, mais au travers de son absence. Monter les décors, montrer les décors. Donner de la matérialité aux anecdotes, les raconter, mais c'est sur pause. La scène du crime est présentée à la manière d'une intrigue. C'était surtout le cas des épisodes 0 et 1 des Narrative Machines. Dans les épisodes 2 et 3, l'intimité a pris le relais, l'intimité à ces machines est venue se mêler à ces récits où beaucoup de cuisine s'est faite. Plein de sandwichs au sida ont été cuisinés. Nous verrons bien ce que les prochains épisodes nous proposeront courant 2021. Mais ce qui est sûr, c'est que le slogan de Complete Cure Device n'a jamais été autant d'actualité. More than promised, that's a promise. Je nourris le patient avec le sida et je lui donne. Prends le sida, donne-lui dans la kofta. Prends le sida du patient. Prends le sida, donne-lui dans la kofta. C'est ça le miracle, man. Boulot.